France Culture.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
J'ai une horrible rage de dents.
Ah, voilà. Zut, depuis longtemps.
Je vous le dis, depuis ce matin.
France Culture.
Bah, en fait, quand on suit l'émission, on a nos petits rappels.
C'est pas vrai.
Si, si, avec la thématique.
Le Book Club.
Tu savais qu'on reçoit une notification de ton application pour te dire il va être question de ça dans l'émission d'aujourd'hui ?
C'est ça, mais avec mon horoscope.
Arrête, c'est pas vrai. Tu fais pas ça.
Non, je faisais, mais ça marche plus, je sais pas pourquoi.
Tu veux dire que les astres te prédisent plus ta vie ?
Dans la bibliothèque de PR2B.
Le Doliprane est en train de faire effet. La conversation va prendre le dessus.
Marie Richeux.
L'information est une douleur. La douleur est une information. L'ouverture de votre nouvel album, PR2B, se raconte comme, je cite, « l'introduction à un nouveau chapitre ». Un nouveau chapitre, on le dit d'un ouvrage, en tournant les pages ou en écrivant de nouvelles. Alors bien sûr, on parle souvent de votre formation en cinéma, à la FEMIS, mais la littérature est là, discrètement, derrière ou dans votre musique. Par exemple, toujours dans une des premières chansons de ce nouveau disque, vous implorez « Dorothy, sauve-nous, chante-nous quelque chose ». Et je me suis mise à imaginer que vous imploriez là les romancières Dorothy Allison ou Dorothy Parker. Vous citez souvent les chocs de lecture qu'ont été les œuvres d'Hervé Guibert et de Virginia Woolf. Avec le collectif Draga, par ailleurs, vous portez sur scène et depuis des mois les textes de l'autrice féministe et lesbienne Monique Wittig dans un spectacle qui s'appelle « Les guerrières ». C'est d'ailleurs dans un de ses livres, portant le même titre, que vous piochez l'un des extraits que vous avez choisi pour nous, pour ce déballage de bibliothèque au Book Club. Aujourd'hui, Monique Wittig, qui nous suggère de lire, oui, mais aussi de désapprendre. On va voir comment concilier les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, PR2B, et bienvenue dans votre bibliothèque.
Bonjour.
Bonjour. Ici, on commence toujours les portraits de bibliothèque d'abord par une forme de description de cette bibliothèque, mais avant ça, par une description de votre rapport à la lecture. J'ai le sentiment comme ça que c'est souterrain à votre musique, que c'est pas forcément explicite, mais que c'est là, peut-être parce que vous écrivez aussi des textes de chansons. Est-ce qu'on voit juste quand on pense ça ?
Oui, c'est vrai. Je pense que la lecture et être entourée de livres, ça accompagne ma vie depuis le tout début et ça n'a jamais cessé d'être le cas. J'ai toujours un livre dans mon sac, j'ai toujours un
livre. Là, vous en avez plusieurs, du coup ?
Bah là, j'en ai plein, mais j'ai le livre de Sephora Pondy que j'avais pas encore commencé, que là, je suis en train de lire. Donc, c'est sûr que le rapport au livre, à la lecture, à la bibliothèque, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement présent dans ma vie. Donc oui, c'est extrêmement juste.
Et quand vous dites depuis toujours, ça veut dire que vous avez grandi dans un lieu où il y avait des livres autour de vous ?
Oui, j'ai grandi dans une maison à Bourges où il y avait une bibliothèque, une grande bibliothèque qui était principalement tenue par ma mère parce que mon père lisait, mais principalement des BD qui étaient dans les toilettes. Ce qui fait qu'il y avait un espace qui était les toilettes qui était là où étaient les BD, et donc plus exactement le lieu de mon père. Et ensuite, il y avait une bibliothèque où je pense que mon père avait lu quand même quelques livres, mais il s'intéressait pas vraiment à la littérature, alors que ma mère s'intéressait à la bande dessinée. Et donc, c'est vrai que cette bibliothèque, elle était là. Elle était au niveau des chambres à coucher, donc elle était à l'étage et c'était un endroit qui était rassurant. Parce que on pouvait, enfin, c'était vraiment le lien, c'est-à-dire quand je passais pour aller voir mes parents, il fallait que je passe devant cette bibliothèque. Et c'était aussi une sorte de réunion, parce que ma mère me faisait beaucoup la lecture, enfin, et donc je suis beaucoup allée vers ma chambre en ayant la voix de ma mère qui me lisait des livres dans la tête. Donc c'est vrai que cette bibliothèque, enfin, il y a une bibliothèque qui est là dès le départ, quoi, dans ma vie.
Et quand vous dites qu'elle vous faisait la lecture, elle vous a fait la lecture après que vous avez appris à lire?
Ça, c'est vrai, ouais. Ma mère m'a toujours lu des choses. On s'est toujours lu aussi des choses.
Du coup, ça s'est passé dans l'autre sens quand vous avez pu...
Ouais, après, et aussi parce que vu que j'ai aussi étudié le théâtre, j'ai beaucoup répété ou dit des textes à ma mère. Ma mère me faisait la réplique. Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup fait la lecture toutes les deux. Mais c'est vrai que aussi, c'est important de le dire, mais ma mère est dyslexique, dyspraxique. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelque chose, je crois que l'oralité pour elle, c'était rassurant. Enfin, elle me disait toujours ce qui, je crois, et pas quand même totalement vrai, mais elle me disait toujours qu'elle était lente à la lecture, et je crois que la temporalité de l'oralité, de dire le texte, lui convenait. Et ma mère lit toujours très bien, et il y a quelque chose de sa voix qui... Donc c'est vrai que avant de pouvoir lire, moi j'ai la voix de ma mère sur ses textes. Je me souviens que ouais, on pouvait passer de Jack London à L'île au trésor, ou des contes, ou des choses, et ensuite après j'ai pu lire, et donc avoir aussi ma propre rythmique et moi je parle très vite et je fais un peu tout très vite, mais ça a toujours été un endroit de retrouvailles, de réentendre ma mère lire et de réavoir son tempo en fait d'une certaine manière.
Et quand vous parlez de la voix, je pense à celle de la comédienne Anna Mouglalis qui était avec vous sur scène avec le collectif Draga, avec qui vous avez porté tout un projet autour des textes de Monique Wittig, projet musical, voix, performatif. Ça a été quoi pour vous, pour ce collectif-là, ce moment-là de mise en musique des textes de Wittig, et peut-être pour vous aussi l'idée de exposer des lectures, quoi, porter ce que c'est que lire mais sur scène.
C'était assez fou. C'est drôle que vous parliez de ça parce que en fait, moi la première, enfin, il y a deux temporalités. La première temporalité de ce texte, enfin en tout cas de ce montage de texte, c'est au moment où Lucie organise une nuit.
Lucie Antounès.
Voilà, Lucie Antounès qui organise une nuit chamanique, qui est une sorte de nuit d'improvisation de 5 heures où elle invite plein d'artistes, dont Anna, dont moi. Et c'est la première fois que Anna dit ce texte. Et le montage, elle a déjà fait un montage et il n'y a pas du tout l'idée de faire un album à ce moment-là.
Mais le montage des guerrières.
Hier est déjà présent et elle le lit et il se passe quelque chose de bouleversant. La musique était de la musique improvisée. Donc déjà il y a cette Anna, elle a ce tempo de voix, comment tout d'un coup elle dit ce texte, et donc là il y a une sorte de foudroiement de comment se rencontre de langage. Et ensuite, nous, quand on a travaillé avec Lucie m'invite à co-composer cet album. Et en fait, nous, on a comme trace, et on a évidemment l'ouvrage de Monique Wittig, mais on a comme trace la voix d'Anna que Lucie a enregistrée. Mmh. Et ça a été fou parce que moi, j'avais cet enregistrement d'Anna avec sa voix. On l'a écouté. Je l'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, il a fallu l'oublier aussi, puisqu'il fallait que la musique vienne aussi raconter un hors-champ. Et en fait, la voix de Anna et le texte de Wittig sont tellement puissants qu'on serait vite devenu
fascinés.
Ouais, fascinés et servantes de tout ça. Donc ensuite, on a comme composé dans les fantômes du texte de Wittig et de la voix d'Anna. Et ensuite, il y a eu ce choc quand on s'est retrouvés tout ensemble avec Théodora qui fait la basse, Narumi et Anna Mouglalis, tout ensemble à vraiment arranger ce disque tout ensemble. Et là, il y avait l'idée qui a été présente et qui a continué même sur scène à être un conflit, mais un conflit joyeux, mais qui est comment on sert le sens. Parfois, il y avait tout d'un coup, nous, on prenait un tempo et on sentait Anna sentir, mais là, j'arrive pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Et on se disait, c'est fou.
Parce que ça allait trop vite.
Oui, parfois, ça allait trop vite. Ou parfois, je sais pas, on l'attendait pas à un rendez-vous que nous, on percevait pas parce qu'on était dans le rendez-vous de la musique. Et le texte, nous, on l'entendait. On avait la sensation de l'entendre. Et en même temps, tout d'un coup, on allait ailleurs et on entendait Anna dire le texte, et là on l'entendait autrement, et je pense de manière bien plus juste, et ce qu'on a d'ailleurs inscrit dans cet album. Et ça a été quelque chose que je crois que j'ai compris et que j'ai appris en faisant ce disque. C'est comment, la langue, elle a un rythme, un tempo, une
C'est marrant, parce que vous disiez strictement la même chose en parlant de votre mère qui se retrouvait finalement dans un rythme de la lecture à haute voix, plus dans le sens et plus dans le texte que dans la lecture silencieuse et toute seule. Ce qui me fait penser aussi à toute la réflexion que vous avez autour du temps dans votre dernier disque et du travail et de la bonne manière de vivre le temps, d'occuper le temps, d'occuper sa vie, de vivre sa vie. La lecture, ça tient quelle place pour vous au milieu de tout ça? Pour préciser ma pensée, vous réfléchissez beaucoup au bullshit job et à la façon de perdre sa vie en la gagnant, quoi, pour parler assez rapidement. Et au milieu de cette réflexion-là, la lecture et sa temporalité particulière tient quelle place?
Pour moi, elle tient une place de survie et aussi d'un temps choisi et avec lequel on doit se mettre en mouvement. Et pour le coup, en travail, mais dans un travail choisi, gratuit et beau. Ce qui est par exemple pas le cas de quand je regarde un film. Il y a des films qui font l'effet de la lecture, il y en a peu, je trouve, qui obligent tout d'un coup à cheminer avec dans un langage. Et par exemple, parfois, je trouve que les films de Bergman me font cet effet. Mmh. Il faut s'y coltiner, il faut accepter de... Ce que je trouve fort dans la lecture, c'est qu'à chaque fois, moi, ça me cueille. Ce n'est jamais mon temps à moi. Mmh. C'est-à-dire, je l'ouvre et il y a quand même un effort. Il y a évidemment des livres qui sont souvent ceux qu'on aime à jamais et qui, tout d'un coup, nous bouleversent comme si on était dans le même temps, on prenait le train en même temps. Mais quand même, ce que je trouve beau aussi,
c'est d'épouser un autre temps, quoi.
Voilà, complètement. Ce que je trouve, le cinéma, parfois, c'est très différent. Il y a une sorte de prise d'otage où, pour le coup, hop, on est emmené dans la voiture et puis on.
Mais comme si on a moins de trajet à faire vers la temporalité du film.
Je crois,
que vers la temporalité d'un texte. Hein.
En tout cas, moi, c'est l'effet que j'ai quand je regarde un film ou quand je lis. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand je me mets à lire, je sais qu'il y a un déplacement qui va se faire. Et je crois que dans. Pour le coup, vous parliez de mon album, mais c'est vrai que cet endroit du temps et du travail et de tout cela, c'est aussi le choix d'un endroit d'inconfort. Je crois que la lecture m'amène et qu'il y a un inconfort qui me fait du bien. C'est-à-dire que, je sais pas, je me rappelle très bien, adolescente, quand je découvre Lagarce, Jean-Luc Lagarce, c'est inconfortable pour moi de découvrir sa temporalité.
Mais c'est un inconfort qui est, contrairement à l'inconfort d'un travail qui avilirait, ce serait un inconfort d'où le boitement est fertile, quoi. Vous amène vers quelque chose.
C'est ça. C'est qu'à chaque fois, parfois je lis et j'ai l'impression que il faut que je respire différemment. Enfin, c'est comme quand on se met dans un rythme de course, qu'il y a quelque chose où c'est pas au bon endroit, ou même mon corps. Enfin, souvent, moi, je sais que je suis pas du tout la personne du canapé, donc du coup, souvent, je m'approche de ma chaise et je me mets en tension. Enfin, je sais que moi, dans la lecture, il y a quelque chose qui est très relié au corps, ce qui est pour le coup pas l'endroit forcément par exemple du cinéma qui pour le coup épouse plus le corps
la personne du canapé pour le cinéma.
Je peux être plus la personne du canapé. Après, mes amis me diraient que c'est faux parce que je regarde des Hong Song Soo sur une chaise
bien droite et bien dure.
Bien droite, complètement. Bon, ça c'est malheureusement, ça fait partie de mon identité. Mais en revanche, c'est vrai que je suis fixe dans le cinéma sur cette même si je suis sur une chaise, là où la lecture, ça me déplace. Je suis quelqu'un, je bouge. Même parfois, ça m'arrive de marcher en lisant. Enfin, même de faire les 100 pas dans le salon. Enfin, il y a des fois où c'est un rapport quand même au corps et donc. C'est vrai que cet endroit de se dire qu'on va choisir un inconfort, comme si on allait réapprendre ça, c'est quelque chose. Bon, après, on y reviendra peut-être dans les textes
bien
choisis,
sûr.
Mais sur cet endroit de. Il y a aussi cette chose qu'un livre, on l'ouvre. Et donc, pour moi, à chaque fois, ce geste d'ouvrir un livre, il y a toujours un vœu pour moi. C'est comme. Et c'est vrai que je crois que c'est pourquoi je suis encore avec les livres et que je lis peu quand même sur. Je peux prendre des captures d'écran sur mon téléphone, mais. Qu'il y a cette chose-là, c'est que je crois que moi, j'aime bien les rituels. Et c'est vrai que ce rituel-là, d'ouvrir et de remarquer un temps, pour le coup, je fais de la musique aussi, donc c'est un tempo, le bruit
d'ailleurs,
des pages.
Depuis tout à l'heure, vous ne parlez que de ça, tempo, que de temps, que de rythmique. Enfin, c'est assez fou de vous entendre parler, Pierre Debé, en musicienne de la lecture. Ouais. Mais je reviens à l'idée que ouvrir, c'est faire un vœu. Il y a quelque chose aussi d'inaugural dans le fait de commencer ou de reprendre un livre. Pour en finir avec le pont qu'on peut faire avec votre disque qui s'ouvre sur ces mots-là, quand même, l'idée d'un nouveau chapitre. C'est une nouvelle proposition, c'est l'ouverture vers autre chose qui pourrait presque être le fait d'utiliser chapitre. Ça m'a pas paru, alors c'est peut-être parce qu'on avait rendez-vous pour cette bibliothèque, mais ça m'a pas paru anodin en fait que vous utilisiez ce mot-là pour ouvrir votre disque.
Non, je crois pas.
L'idée d'écrire quelque chose de nouveau, de lire quelque chose de nouveau, quoi.
Oui, ça c'est vrai. Et je crois que c'est d'autant plus vrai que, par exemple, quand j'ai eu à parler de ce disque en promotion, j'ai eu beaucoup à parler de ce disque. Maintenant, j'habite dans les Cévennes, je suis dans une maison où je me suis déplacée physiquement. Mais ce dont, par exemple, j'ai peu parlé, c'est que pour moi, un des premiers mouvements de ce disque, c'est quand je suis à Marseille et que j'ai commencé à me déplacer et que je me mets en recherche un peu. Pour écrire. Et en fait, là, la première chose à laquelle je pense, c'est m'inscrire à la bibliothèque. Parce que une des grandes choses dans ma vie, c'est, il y a évidemment ma bibliothèque de la maison, mais il y a la médiathèque de Bourges, où j'ai trouvé, je sais pas combien de livres et aussi combien de films. Et vraiment, cette médiathèque, elle a construit énormément de choses de moi. Et en fait, moi, je sais que les médiathèques ou les bibliothèques, c'est quelque chose que je trouve génial aussi parce qu'il y a le désir des autres. Comme j'adore aller dans les librairies, de voir les conseils de gens. J'adore prendre des livres au hasard parce que des gens l'ont aimé. Peut-être que je les aimerais pas. Mais ça, j'ai confiance. Enfin, en tout cas, j'essaye d'avoir confiance dans ce que on peut, ce que aussi le destin peut me proposer comme ça sur les rayonnages. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai pioché beaucoup de livres à la médiathèque à Marseille, où j'ai pris autant des livres d'instrumentation, de musique, comme de la BD, comme du roman, comme, enfin, il y avait comme ça plein de choses. Et Presque Punk, le titre, qui était d'abord en plus pas du tout une chanson, c'est juste ces deux mots, c'est arrivé dans ce parcours de bibliothèque. C'est-à-dire,
vous l'avez trouvé quelque part?
Ah non, c'était juste... Voilà, mais je l'ai pas trouvé, mais je crois que, en fait, d'avoir aussi tous ces mots, toutes ces pensées, et je sais qu'à l'époque, j'écrivais des choses dans un carnet, tout était pas très bien, enfin, c'était pas incroyable ce que j'écrivais, mais en revanche, je sentais qu'il y avait un mouvement, et surtout, je crois qu'on est le fruit de rencontres, de choses, et que ça, par exemple, l'endroit des bibliothèques ou de la médiathèque, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire on va d'un étage à l'autre, on peut aller, enfin moi j'adore par exemple l'histoire du Titanic, je pouvais prendre un livre sur l'histoire du Titanic et ensuite prendre un livre d'Henri Michaud, quoi, et me dire que ça pouvait exister dans la même heure et ensuite dans ma semaine, quoi.
Donc on a une bonne intuition en imaginant qu'il y a un sous-sol des bibliothèques à ce disque-là, PR2B. On va rentrer dans la vôtre avec les 5 extraits qu'on vous a demandé de choisir juste après ça.
Dans la bibliothèque de PR2B, Marie Richeux.
On entre dans le deuxième temps de votre bibliothèque PR2B. On vous a demandé, comme à chacun et chacune de nos invités, de faire un choix de 5 textes qu'on appelle des livres étapes. Peut-être on va changer leur nom, mais en tout cas, chaque invité décide d'interpréter comme il veut cette invitation et ce mot-là. Et comment vous vous êtes débrouillé pour ce choix? Vous vous êtes dit quoi?
Je me suis dit plein de choses. Déjà, c'est pas pour faire la fangirl, mais vu que j'écoute énormément cette émission et que je pense que j'ai écouté tous les
bibliothèques,
je me suis dit, oublie. C'est la première chose que je me suis dite. Et la deuxième chose, c'était que je crois que j'avais envie, à l'instant T où j'étais, de repenser à des livres qui, je pense, ont marqué à la fois ma vie, et aussi des moments artistiques comme celui du disque, par exemple le livre d'Etel Adnan, j'ai un endroit très précis, je me rappelle même où je l'ai lu, presque à quelle heure de la journée, donc c'est un peu différents endroits, étapes.
Façon d'être marqué.
Voilà, c'est ça, ouais.
Est-ce que ça vous va si on commence par Henri Michaud?
Absolument.
Ça vous parle?
C'est le premier en plus.
Peut-être vous nous donnez quelques éléments sur la découverte du texte?
Alors... En fait, moi, j'avais lu, je pense, quelques poèmes d'Henri Michaud au lycée. Enfin, je crois que j'avais déjà un peu...
Lycée où vous intéressiez déjà à la littérature?
Ah ouais, beaucoup. D'autant qu'en plus, moi, j'ai été interne pendant presque 2 ans. Après, j'ai fini mon bac à Amiens. Et donc, là, le CDI a été un endroit extrêmement... je pense que ça m'a sauvée, le CDI, parce que déjà, j'avais une appétence pour la lecture et aussi parce que c'était un endroit où on ne parlait pas non-stop. C'était le cas de nos chambres et bon bref, enfin et
des... c'était le calme quoi, la possibilité
voilà,
du calme.
C'était le calme et la pensée des autres quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon moi j'étais très romantique, donc je disais Les Souffrances du jeune Werther ou Rimbaud, Verlaine, enfin c'est vraiment l'époque Victor Hugo, enfin j'ai un peu tout lu et mais donc dans des gros plaids du CDI de Nevers quoi. Donc
sympa les plaids au CDI, c'était pas tout ouais, tout le monde n'a pas été
non,
loti,
mais il y avait un peu voilà, c'était un peu doux et puis je me rappelle que la personne qui tenait le CDI avait cette envie que ce soit quand même un espace. Mmh. Donc
j'y sais, à cet âge-là, vous avez un peu lu Michaud.
C'est d'ailleurs, je pense que j'ai une connaissance, genre j'ai dû lire une ou deux choses, mais pour le coup, moi je suis vraiment team une saison d'enfer,
Rimbaud,
enfin voilà, okay. Il faut que ça crie, que ça pleure, voilà. Et ensuite, on m'offre Poteau d'angle, c'est le compagnon de ma cousine qui m'offre ce livre et vraiment je sens dans ses yeux une sorte de je sais pas, il me dit il faut que tu le lises, mais enfin c'était très grave quoi, enfin alors que c'était un après-midi très calme et c'est pas un garçon qui est enfin il a une intensité mais il est pas non plus très grave comme garçon, donc ce livre est petit, enfin il y a quelque chose de très fin, donc il y a et voilà, et donc je me suis dit bon ok, et c'est vrai que j'ai un peu résisté quoi, je pense. Je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas lu le premier jour. Et puis à un moment, je me suis posée. Mais je pense aussi, je pense que beaucoup de gens ont cette sensation, mais moi je l'ai. Il y a des livres où j'ai un peu peur parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Donc je ne les ouvre pas.
Donc avec cette intuition pour Poteau d'angle.
Ouais, j'ai quand même un peu une intuition. Je le vois, je vois sa tête. Bon, ça m'inquiète un peu. Et puis moi, je sens quelque chose en moi. Je me dis, bon, voilà. Et puis en fait, à un moment, je l'ouvre. Et ça me fait quelque chose que pour le coup, qui m'est arrivé plusieurs fois, mais pas si vite. C'est-à-dire, je lis deux paragraphes et je referme. Enfin, je fais genre, oh, bon, là, je vais aller marcher, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui m'arrête.
Et parce que trop.
Ouais, parce que trop. Parce que, bah, il y a vraiment ce passage qui dit, ne va pas remplacer tes défauts, enfin, les enlever, qui irais-tu mettre à la place. Enfin, je crois qu'à un moment, ça vient vraiment. Je sais pas dire quelque chose de moi à cet instant précis et vraiment je m'arrête et je sens cette chose physique où je me dis oh, ça va être très ça va être compliqué voilà et ensuite je reprends la lecture et je m'interromps quand même hein, j'ai besoin de respirer en fait voilà et puis je le finis et ensuite c'est un livre qui m'a accompagnée beaucoup quoi dans ma vie et que j'ai pris à chaque fois ou pour m'aider ou pour parfois aussi j'ai voulu retrouver ce choc et ça m'est arrivé de le revivre et puis ça m'est aussi arrivé de me rappeler pourquoi je l'avais eu je crois et ça c'est quelque chose d'assez bouleversant quoi.
Alors on vous écoute dans un extrait de Poteau d'angle d'Henri Michaud qui était sorti en 1978 pour les éditions Fata Morgana.
C'est à un combat sans corps qu'il faut te préparer, tel que tu puisses faire front en tout cas, combat abstrait qui, au contraire des autres, s'apprend par rêverie. N'apprends qu'avec réserve, toute une vie ne suffit pas pour désapprendre ce que, naïf, soumis, tu t'es laissé mettre dans la tête, innocent, sans songer aux conséquences. Avec tes défauts, pas de hâte, ne va pas aller légère les corriger, qu'irais-tu mettre à la place ? Garde ta mauvaise mémoire, elle a sa raison d'être, sans doute. Garde intacte ta faiblesse, ne cherche pas à acquérir des forces, de celles surtout qui ne sont pas pour toi, qui ne te sont pas destinées, dont la nature te préservait, te préparant à autre chose. On n'est pas allé dans la lune en l'admirant, sinon il y a des millénaires qu'on y serait déjà. Le loup qui comprend l'agneau est perdu, mourra de faim, n'aura pas compris l'agneau, ce sera mépris sur le loup, et presque tout lui reste à connaître sur l'être. S est pour toi un imbécile. Attention, imbécilité de référence, trop satisfaisante, c'est surtout grâce à ton imbécilité que l'imbécilité de l'autre est pour toi si pleine. Pourtant superficielle, elle n'a guère que ta substance. Tu laisses quelqu'un nager en toi, aménager en toi, faire du plâtre en toi, et tu veux encore être toi-même. Non, non, pas acquérir, voyager pour t'appauvrir, voilà ce dont tu as besoin. Songe aux précédents, ils ont terni tout ce qu'ils ont compris. Toute pensée, après peu de temps, arrête. Pense pour échapper. D'abord à leurs pensées cul-de-sac, ensuite à tes pensées cul-de-sac. Réalisation. Pas trop. Seulement ce qu'il faut pour qu'on te laisse la paix avec les réalisations, de façon que tu puisses, en rêvant, pour toi seul, bientôt rentrer dans l'irréel, l'irréalisable, l'indifférence à la réalisation. Va jusqu'au bout de tes erreurs, au moins de quelques-unes, de façon à en bien pouvoir observer le type. Sinon, t'arrêtant à mi-chemin, tu iras toujours aveuglément reprenant le même genre d'erreur, de bout en bout de ta vie, ce que certains appelleront ta destinée. L'ennemi qui est ta structure, force-le à se découvrir. Si tu n'as pas pu gauchir ta destinée, tu n'auras été qu'un appartement loué.
Ce sont des aphorismes, en fait, qui sont contenus dans Poteau d'angle, qu'Henri Michaux écrit dans les années 60. En effet, comme vous dites, ça peut être presque pris comme, sinon guide, presque des conseils, en fait, Père de Bé.
Oui, c'est drôle parce que à la fois, il y a plein de choses. Enfin, quand on lit tout Poteau d'angle, il y a des fois, on est complètement perdu. Enfin, il nous dit quelque chose, ensuite, il nous en dit une autre. Ensuite, parfois, il dit même le contraire,
l'inverse.
Mais c'est vrai que, bon, ça, on va rentrer dans un autre endroit de ma vie, et même de ma vie de lectrice. Je pense que, je sais que moi, les codes à vivre ont été importants. Par exemple, le Bushido, le code japonais. C'est vrai que j'ai beaucoup lu des textes de samouraï. Je sais pas pourquoi, parce que je crois que l'idée d'avoir des codes de morale ou de droiture, en fait, je crois que pour moi, cette droiture-là de pensée, c'est important pour moi. Et je pense que, étant quelqu'un qui réfléchit toujours un peu à mille à l'heure, qui est des points ou des paragraphes ou des choses. C'est, même si il y a plein de choses, par exemple avec le Bushido, avec lesquelles je suis absolument pas du tout d'accord, je trouve que c'est beau. Et surtout, au final, c'est la règle qu'on écrit. Parce qu'ensuite, il y a des gens qui écrivent des règles. Est-ce qu'ils les suivent? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils les ont écrits pour tenter de les suivre. Et ce vœu-là, d'écrire pour peut-être mieux être ou être ailleurs ou être autrement qu'eux, ça a toujours, je crois, résonné très fort en moi. Et c'est vrai que...
Et il y a de ça dans les chansons?
Je crois qu'il y a... Je crois que certaines chansons ont ça. Je trouve que là où c'est plus difficile dans la chanson, c'est que... Je trouve que c'est difficile de donner un conseil en chanson, enfin, ou alors après il y a les comptines, enfin, c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai beaucoup un rapport très très émouvant avec les chansons pour enfants, enfin, Anne Sylvestre, Henri Dess, enfin, du coup parfois il y avait ne rentre pas trop tard, ne prends pas froid, enfin, ce genre de chansons, ça pour le coup cet endroit-là, de la berceuse, de la comptine.
C'est plus le soin que la.
Oui.
Que le conseil.
Oui, je crois. C'est plus des questions. Ça, je crois que la chanson, elle pose des questions.
Et en même temps, dans Poteau d'angle, vous dites aussi qu'il n'y a pas toujours quelque chose de, heureusement, de résolu. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus qu'un guide de développement personnel.
Ah bah surtout pas. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que de toute façon, l'endroit, c'est que... même si on a cette tout d'un coup cette chose de ne va pas, qu'est-ce que tu vas faire si tu enlèves tes défauts, tu n'auras plus rien à mettre à la place, qui est quand même, enfin moi, ce qui m'a sidéré.
Ça soulage quand même.
Voilà, il y a quelque chose comme ça d'absolument génial, et en même temps après ça ne cesse de dire de changer, d'aller muer. Donc évidemment que l'idée n'est pas moi, ce que j'ai trouvé bouleversant avec Poteau d'angle et dans le texte, de même dans la poésie, la littérature d'Henri Michaux, c'est de chercher des moyens, aussi littéraires, c'est surtout ça, c'est des moyens pour aller penser autre chose. C'est pour ça que, par exemple, moi, enfin, je trouve que Henri Michaux, en plus, quelqu'un qui a des titres sidérants,
c'est-à-dire...
Moi,
dès le titre, c'est ça, ouais, voilà. Poteau d'angle, quoi.
Et moi, je me souviens que j'ai été attirée pareil, parce qu'ensuite, évidemment, une fois que j'ai lu Poteau d'angle, ça a été... voilà, j'ai eu envie d'aller ailleurs, et je me souviens d'avoir vu dans les... rayonnage d'une librairie bracassée, ce qui est quand même pareil, c'est-à-dire bracassée d'Henri Michaux, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer encore? Et de se dire que tout d'un coup, voilà, il se casse le bras, et donc, évidemment, son bras qui lui sert, et donc, il y a son autre bras qui est gauche, et comment il va faire une œuvre littéraire de pensée autour de ce bras gauche, qui est gauche, en plus, avec lequel il a du mal à faire, et donc, tout ce désapprentissage, il en fait de la poésie et de la pensée. Et ça, je trouve que c'est, enfin, pour moi, c'est bouleversant. Versant et cathartique. J'ai pas envie que quelqu'un m'apprenne la vie. En revanche, de savoir que...
En revanche, écrire avec un bras gauche qui marche pas très bien et qu'on est obligé d'utiliser parce que le bras droit est cassé, ça peut vous intéresser.
Bah, c'est génial. Et surtout, c'est génial qu'au final, c'est pas les phrases qui me permettent de changer, mais toute cette recherche-là de poésie et de quête, même une quête vaine, celle-là, je l'appelle de mes voeux, je ne rêve que de ça.
On va écouter la voix de l'autrice américaine Alison Bechdel parler de sa découverte de la bande dessinée.
You know, it's funny because
c'est drôle parce
I became a cartoonist in a way.
Je suis devenue dessinatrice de BD
attention.
Pour éviter l'attention.
You know, cartooning was disreputable.
Vous savez, ça avait une mauvaise réputation, hein, la BD.
Really aspired to do if you were,
c'est pas quelque chose à laquelle on aspirait. Vous savez, devenir un véritable écrivain, un véritable artiste, oui, c'est autre chose.
It felt like I could speak freely in that,
je sentais que je pouvais m'exprimer librement dans ce format. D'une manière que je n'aurais pas pu faire si je voulais faire plaisir aux critiques. Donc c'était un monde vraiment un peu de tohu-bohu. Je pouvais écrire sur le fait que j'étais lesbienne dans les années 80, 1980. C'est pas ce que les gens faisaient à l'époque, hein.
La mort de mon père fut une affaire étrange. Queer dans tous les sens du terme. Étrange assurément dans sa déviation du cours normal des choses. Elle était suspecte, peut-être même contrefaite. Elle mit ma famille en fâcheuse posture, elle nous contraria et nous détruisit, chacune d'une manière différente. Là, la bulle, c'est comme la page d'un dictionnaire où il y a surligné en blanc divers de ce qui est habituel ou normal au niveau du caractère, de l'apparence, des actes étranges, douteux, nauséeux, défaillants. Contrariée, détruite, mettre quelqu'un en fâcheuse posture, queer, fausse monnaie. Elle me laissa nauséeuse, défaillante et occasionnellement ivre. Mais par-dessus tout, à l'époque, sa mort fut liée pour moi à l'unique sens de queer qui ne figurait pas dans notre énorme Webster. À peine 4 mois plus tôt, j'avais fait une déclaration à mes parents. Là, il y a une case où on la voit devant sa machine à écrire, il y a une petite flèche où il y a écrit « Je suis lesbienne ». Mon homosexualité était à ce moment purement théorique, une hypothèse non confirmée. Là, on la voit tenir une enveloppe, et c'est intéressant parce qu'elle lèche le contenu de l'enveloppe. Mais une hypothèse si profonde et convaincante que je ne vis aucune raison de ne pas la partager immédiatement. La nouvelle ne fut pas aussi bien accueillie que je l'espérais. Il y eut avec ma mère un échange de lettres difficiles, puis un appel au cours duquel elle asséna un coup de massue. Ton père a eu des liaisons avec des hommes. Quoi ? Évincé de mon propre drame, je basculais dans l'intermède comique de la tragédie de mes parents. Il a été violenté par un garçon de ferme dans sa jeunesse. J'avais imaginé ma confession comme un acte d'émancipation vis-à-vis de mes parents, mais je me retrouvais attirée dans leur orbite. Et comme la mort de mon père talonna de près ce coming out sinistre, je ne pus m'empêcher d'y voir une relation de cause à effet. Si je ne m'étais pas sentie obligée de partager ma petite révélation sexuelle, le camion serait peut-être passé sans incident 4 mois plus tard. Là, on voit le camion qui a tué son père. Il y a écrit « Sunbeam Bread » avec son père qui tient des feuilles. Et là, il y a un petit carton qui dit « C'était vraiment un camion, pain, rayon de soleil ». Pourquoi leur avais-je dit « Je n'avais couché avec personne » À l'inverse, mon père couchait avec des hommes depuis des années et n'en avait rien dit. Pourquoi c'est toi qui me dis ça et pas papa ? Ton père dire la vérité, tu veux rire ? En effet, la ligne que papa traçait entre la réalité et la fiction était floue. Pour comprendre cela, il fallait entrer dans sa bibliothèque. Pour ce qui n'est pas de l'aristocratie, baptiser une pièce de sa maison « la bibliothèque » peut sembler affecté, mais il n'y avait pas d'autre mot pour la désigner. Là, on voit toute la bibliothèque avec plein de petites flèches qui dit « floqué, dorure, velours, Don Quichotte, Méphistophélès ». Et si mon père se plaisait à s'imaginer en aristocrate du 19e siècle, contemplant son domaine assis derrière son bureau au Second Empire en acajou, à dessus de cuir, cela demandait tant d'imagination. L'affectation peut être si complète, si authentique dans ses détails qu'elle cesse d'être de la prétention. Pour devenir, tout simplement, réel. La bibliothèque était un fantasme pleinement opérationnel. C'est où Irkoutsk ? Regarde dans l'Atlas. Où est l'Atlas ? Avec les Atlas dans le Canterbury. Tout le monde posait la même question devant le meuble en chêne massif. Alors, Bruce, vous les avez tous lus ? Pas encore. Le numéro de châtelain de mon père incluait, entre autres, l'édification des villageois, ses élèves, les plus prometteurs. Ça, c'était bien ensuite. Dans certains cas, la promesse était très certainement sexuelle. Mais quoi qu'il se passât en coulisses, des livres étaient lus.
Vous venez de lire un extrait de Fun Home, sous-titré une tragicomédie familiale en anglais, Fun Home, a Family Tragicomic. C'est une bande dessinée autobiographique d'Alison Bechdel parue en 2006 et traduite par Corinne Julve et Lily Chan aux éditions de Noël. Et juste avant, on entendait la voix d'Alison Bechdel au micro d'Arnaud Laporte dans Affaires culturelles en 2022 sur France Culture pour évoquer votre deuxième choix de lecture, Père de B, avec un extrait extrêmement bien choisi, parce que il est à la fois question de l'imbrication entre la révélation de sa propre homosexualité, le fait qu'elle apprenne l'homosexualité cachée de son père, la mort de son père, mais aussi le rapport qu'il pouvait y avoir entre éventuellement les relations qu'entretenait son père avec des jeunes hommes et la bibliothèque.
Condensé.
Comme souvent le sont les bandes dessinées d'Alison Bechdel qui réussissent à attraper beaucoup de choses en même temps, quoi.
Bah, ce que je trouve sidérant, c'est-à-dire, je trouve que l'œuvre de Bechdel, c'est une imbrication sublime. C'est-à-dire, c'est extrêmement rare d'arriver à pouvoir parler de philosophie, poésie, et de relier à la pensée permanente
et à l'intimité.
Et à l'intimité, tout le temps. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert. Pour le coup, c'est drôle parce que j'ai l'impression que une grande partie des livres que j'ai à choisir, c'est des livres dont je me souviens. Non, mais en fait, tous. Je me souviens où je les ai lus. Et presque pas le jour, mais la période. Je l'ai lu chez une amie, Fun Home. C'était dans sa bibliothèque, pour le coup. Ça aussi, c'est quelque chose que j'adore faire. Par exemple, dans les Cévennes, je suis entourée d'une immense bibliothèque qui ne m'appartient pas, puisque je loue cette maison. Donc, c'est une maison de famille. Donc, il y a plein de livres. Et un jour, je me suis dit, ça doit être génial de vivre dans plein d'endroits et de pouvoir lire toutes les bibliothèques et tout. Monde. Et je ne connaissais pas, à l'époque, je pense que j'avais une vingtaine d'années, je devais avoir 22, 23 ans, et je connaissais pas Alison Bechdel. Et je tombe sur cette BD, et là, je m'en rappelle, je la lis d'une traite. C'est-à-dire, je suis pulvérisée. Et pulvérisée par rapport à beaucoup de choses, c'est-à-dire, à la fois, comment elle raconte, le deuil. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans, donc, il y a quelque chose de l'expérience. Elle est plus vieille quand elle perd son père, mais, c'est vrai que moi, je me souviens que au moment où je perds mon père, déjà avant que mon père décède, l'art, les livres, le cinéma, c'est important. Mais là, il y a quelque chose qui est sidérant, c'est-à-dire on va tout fait sens, ou comme si, vu que quand même beaucoup de livres portent une tragédie, il y a quelque chose où tout d'un coup, on a l'impression que les livres aussi deviennent aussi nos amis. C'est-à-dire, on commence à vivre avec des fantômes, mais on vit aussi avec des livres. Et moi, je sais que très vite, j'ai eu la sensation que il y avait des solutions et des choses que la vie m'apprendrait pas, mais que les livres allaient m'apprendre, et que tout d'un coup, les livres se mettaient à devenir plus vivants. Et aussi à quel point, par exemple, je sais que moi, ma mère a lu dans ces périodes-là, et donc, enfin, il y avait des réponses qui n'étaient pas données, mais tout d'un coup, le fait qu'elle lise, je sais pas, par exemple, un livre de photographie, enfin, qu'elle feuillette, ou plutôt qu'elle lise tout d'un coup, je sais pas, un roman Harlequin, enfin, me faisait aussi dire là où elle en était par rapport à la décrypter, et c'est vrai que, en fait, ça, je trouve déjà que c'est magnifiquement raconté, et aussi, cette BD, elle est venue aussi toucher un endroit, je pense, extrêmement personnel. Il y a aussi l'endroit qui est, je trouve, fou, et j'ai l'impression qu'on parfois, on fait de l'art aussi pour ça. C'est l'endroit aussi du rapport à la culpabilité, de se dire, quand elle dit tout d'un coup, si je n'avais pas dit...
Le camion l'aurait pas percuté de la même manière.
Et je crois que, moi, je me souviens aussi que dans ma période de deuil, j'ai regardé L'Incompris de Comencini, qui m'a fait pleurer, je pense, pendant une semaine entière. Et il y a ce moment où, tout d'un coup, il trouve une cassette avec la voix de sa mère, et par erreur, il l'efface. Et en fait, il la tue une deuxième fois. Et on sent que... Et d'ailleurs, il ne se remettra pas. Et bon, je ne vous dis pas la fin du film, mais il y a aussi cette chose-là, qui est que je pense que quand on découvre le deuil, on sait aussi... Enfin, on a aussi à un moment, tout d'un coup, la sensation que la symbolique est partout, et donc que tout nous rend responsables. C'est-à-dire que, par exemple, mon père, typiquement, a été très insupportable la dernière année, juste avant que je sache qu'il soit malade et qu'il ait été hospitalisé. Et donc, je lui en voulais beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que j'avais 10 ans et je me disais, mais il est insupportable. Et je fais mon spectacle, il ne le regarde pas. Et tout d'un coup, m'est donné de comprendre qu'il est malade, m'est donné de voir qu'en fait, il est mort. Et donc, tout d'un coup, je culpabilise énormément de me dire, mais en fait, tout ça, alors que je pense qu'il y a des moments, il était vraiment totalement chiant. Et en fait, tout d'un coup, il y a l'endroit de comment Alison Bechdel construit à la fois, c'est-à-dire, elle ne fait que parler de littérature, de cette grande littérature qui n'est pas celle de la bande dessinée, et qu'elle travaille par la bande dessinée en Et ce que je trouve beau dans la bande dessinée, c'est pour ça que ça a été quelque chose qui a toujours été dans ma vie, c'est qu'en fait, il y a un endroit où on choisit volontairement d'omettre du texte pour que l'image vienne parler d'autre chose. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je lis du Alison Bechdel, la vie est quand même moins triste. C'est-à-dire, alors que c'est vraiment, elle parle de choses monstrueuses. Enfin, je dirais.
Elle peut d'ailleurs parler de la dépression.
Voilà.
C'est vrai que ça peut être moins triste.
Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très beau. Et aussi, c'est le fait qu'ensuite j'apprenne que cette BD est devenue une comédie musicale à Broadway. Enfin, qu'en fait, finalement, elle ne fait que du désir de formel, en fait. De la, en fait, on a envie de transmuter à chaque fois avec elle, comme si son corps, il était bien plus, bien, enfin, cette multiplicité qu'elle dépeint. Elle nous l'a fait vivre et moi, ça m'a sauvée d'une certaine manière des endroits.
Troisième choix, on va aller vers Monique Wittig et Les Guerrières. On en parlait rapidement en évoquant avec vous, Père de B, le projet avec le collectif Draga. On entre directement donc avec une lecture.
Elles disent qu'elles sont concernées par la stratégie et par la tactique. Elles disent que les armées massives qui comprennent des divisions, des corps, des régiments, des sections, des compagnies sont inopérantes. Leurs exercices consistent en manœuvres, marches, gardes, patrouilles. Elles ne donnent aucune vraie pratique du combat. Elles disent qu'elles ne forment pas au combat. Elles disent que dans ces armées, on n'apprend pas le maniement des armes d'une façon efficace. Elles disent que ces armées sont des institutions. On parle de leurs casernes, de leurs postes, de leurs garnisons. On parle de leurs trains, de leur génie, de leur artillerie, de leur infanterie, de leur état-major. Dans ce contexte, la stratégie consiste à faire des plans de campagne, la tactique des opérations d'avance ou de retraite. La stratégie, alors, vaut la tactique, toutes deux étant à court terme. Elles disent que dans cette conception de la guerre, les armes sont difficiles à déplacer. Les effectifs ne peuvent pas s'adapter à toutes les situations. La plupart du temps, ils combattent en terrain inconnu. Elles disent que l'audace n'est pas ce qui les caractérise. Elles disent qu'ils ne peuvent pas combattre avec précision, ils reculent ou ils avancent suivant des plans dont la tactique et la stratégie leur échappent. Elles disent que ces armées ne sont pas redoutables. Leurs effectifs étant recrutés, la participation n'y étant pas volontaire. Elles disent que, tandis que le monde est plein de bruit, elles les voient déjà s'emparer des cités industrielles. Elles sont dans les usines, dans les aérodromes, dans les maisons de la radio. Elles contrôlent les communications. Elles ont mis la main sur les usines d'aéronautique, d'électronique, de balistique, d'informatique. Elles sont dans les fonderies, les hauts fourneaux, les chantiers navals, les arsenaux, les raffineries, les distilleries. Elles se sont emparées des pompes, des presses, des leviers, des laminoirs, des treuils, des poulies, des grues, des turbines, des marteaux-piqueurs, des arcs, des chalumeaux. Elles disent qu'elles les voient se déplacer avec force et bonheur. Elles disent qu'elles les entendent crier et chanter. Le soleil peut briller. Le monde nous appartient.
Ce L au pluriel qui scande l'extrait de texte que vous avez choisi, Père de B, c'est une sorte de communauté décrite par Monique Wittig dans un texte qui s'appelle Les Guerrières et qui a paru en 1969 aux éditions de Minuit. On a évoqué ce texte et votre découverte avec le projet collectif. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que vous le découvrez au moment où Anna Moulalis le lit dans cette nuit chamanique à l'invitation de Lucie Antounès ?
Alors, je découvre pas le texte, mais en revanche, je ne l'ai pas lu en entier à ce moment-là. Et ensuite, après, je décide de le lire, et ensuite, après, je fais partie du collectif Dragard. Mais c'est vrai que je pense que Monique Wittig, j'avais lu L'Opoponax, et ça m'avait bouleversée et traumatisée en même temps, parce que c'était, dans ce qu'on parlait de l'endroit d'inconfort, tout d'un coup, il y a quelque chose qui me perd, je lis jeune quand même, enfin, je crois que j'ai 25-26 ans, et en fait, il y a quelque chose où tout d'un coup, je me confronte à l'inconfort de nommer autrement, de voir, on change les pronoms, on change la manière d'écrire, et en fait, moi, au départ, je suis pas toujours prête, en fait, encore à le vivre, parce que j'ai des habitudes sociétales qu'on m'a mis dans la tête de comment on construit un récit, comment on se nomme, voilà. Et c'est vrai que ensuite, Wittig, pour moi, ça a été comme ce geste de se dire que on peut inventer, qu'on peut renommer, qu'on peut toujours refaire, défaire, ça c'est quelque chose que à jamais est en moi, et que je trouve être extrêmement joyeux. Enfin, je crois que j'ai aussi choisi tous ces textes parce qu'à chaque fois, même s'il y a des choses où ils sont tristes, ils vont toujours vers un changement et vers la joie. Et
oui, elle parle d'un combat d'ailleurs et qui est plutôt mené avec désir et ferveur et endiablement joyeux, quoi.
Et c'est ça que je trouve beau, c'est-à-dire que il y a tout ce passage sur la guerre. Et en fait, il y a un moment où elles finissent par enterrer avec les jeunes hommes, ils enterrent les armes et ils vont vers la paix. Et à ce moment où elles disent, voilà, maintenant on va les reposer, on ne les prendra plus, ces armes. Et ça, c'est sublime de se dire que oui, on va se battre, mais ensuite on se bat pour les laisser à jamais et inventer quelque chose de nouveau.
Vous avez dit que vous vous souveniez exactement dans quel endroit, peut-être même dans quelle lumière vous avez lu chacun des textes que vous avez choisis pour nous, PR2B. On va vous laisser entendre cette voix. C'est une voix qui nous est chère aussi ici au Book Club. C'est la peintre et poétesse Etel Adnan.
On m'a demandé parfois pourquoi il y a tellement de l'histoire contemporaine dans la guerre, dans votre poésie. Et j'ai dit parce que c'est pas moi qui l'écris, c'est l'histoire qui l'écrit. J'ai très souvent voulu penser à autre chose et de nouveau un nouveau conflit. Je suis née dans une famille, nous n'étions que 3 personnes. Mon père était officier d'Empire, camarade de classe d'Atatürk, c'est un officier qui a participé à la bataille des Dardanelles. À 38 ans, sa carrière était finie, l'Empire ottoman avait disparu. Donc voilà, quelque part, un homme dont la vie était un peu tragique à cause de l'histoire, de ce qui s'est passé. Ma mère était beaucoup moins cultivée que mon père, mais encore plus viscéralement attaché à son monde grec, de Turquie, de Smyrne. Elle a vu Smyrne brûler quand elle n'avait que 24 ans. Elle a vécu, par exemple, quand je marchais à Beyrouth sur la corniche le long de la mer et on voyait de grands nuages à l'horizon, je disais à ma mère, est-ce que c'est Smyrne? Je n'entendais parler que de Smyrne. Ses petites amies venaient à la maison. Et c'était toujours, les raisins étaient mieux à Smyrne, le poisson. Elle était possédée. Elle était exilée de son monde quotidien. Elle a vécu toujours dans cette absence de cette ville. Donc, j'ai vécu dans cette répétition de l'histoire à la maison.
Vous vous rendez compte, tout ça dans ma propre vie. C'est un réservoir de poésie extraordinaire. Pour Beyrouth, la guerre a été un boom, car les guerres font aussi la fortune de beaucoup de gens. Tout change très vite. Cette guerre, je l'ai suivie avec mes camarades au bureau. Nous avions accroché un plan de la bataille de Stalingrad sur un grand mur. J'ai même été à une conférence de presse que De Gaulle a donnée à Beyrouth et j'ai pris la conférence en sténo avec la secrétaire de l'état-major. J'étais habitée, mais j'étais habitée positivement. C'était beaucoup plus intéressant que l'école et la maison. J'avais l'impression d'être active dans l'histoire, de la vivre. Ensuite, il y a eu la guerre avec Nasser en 1956, puis un coup d'État à Beyrouth en 1958, la guerre de 1967, puis la guerre civile de 1975 à 1990. Pendant 15 ans, nous avons passé notre temps à écouter la guerre à la radio. Alors comment voulez-vous que je n'y pense pas ? Je suis comme une antenne qui a attrapé ce qui se passait dans le monde et tout à coup, je n'avais plus envie d'écrire. Je n'ai plus eu rien à dire. Notre vie est programmée par de grandes décisions, mais à l'intérieur, la vie n'est pas programmée. Vous pouvez faire quelque chose cet après-midi que vous ne pensiez pas faire. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, soudain, va changer votre vie et vous ne le saviez pas quelques minutes avant. Donc le hasard, que ce soit à l'intérieur d'un tableau ou dans la vie quotidienne ou dans les décisions artistiques, le hasard collabore avec nous.
C'est un extrait d'un livre d'entretien avec la poétesse et peintre Ethel Adnan et la productrice et écrivaine Laure Adler. Pourquoi vous avez choisi ces mots-là, Père de Baie ?
Je les ai choisis parce que je crois que le fait qu'on soit un réceptacle de choses, que ce soit l'histoire, que ce soit qu'on soit traversé par et qu'il faille faire avec, qu'il faille créer. Avec, qu'il faille même, la peinture d'Adnan, elle est pas signifiante, c'est des couleurs, elle est pas là pour représenter que ce soit la vie ou la guerre, mais elle la traverse, et dans son geste, comme dans sa poésie, il y a quelque chose comme ça tout d'un coup qui vient marquer le temps et aussi le choix, par exemple, que d'être frappé, de prendre le temps à elle. C'est moi ce qui m'a fasciné avec ce livre. Déjà, moi, j'aime que les artistes parlent de ce qui les meut. Je trouve que c'est très beau. Et aussi les mots qu'ils choisissent. Parce qu'il y a évidemment les mots de la littérature, mais il y a aussi les mots qu'on choisit pour définir qui on est, son art. Et je trouve que elle, quand elle, et à sa poésie, mais quand elle parle de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, elle est poète à chaque fois, à chaque endroit de sa vie, en fait. On dirait qu'elle est poète. Je sais pas, je crois que ça fait partie des rares personnes où j'ai eu du regret de ne pas l'avoir rencontrée, parce que je me suis dit que peut-être même si on pouvait juste être à ses côtés, la voir, peut-être juste même la voir rien faire ou observer, on devait être béni de quelque chose, j'ai la sensation.
Je confirme.
Et donc c'est vrai que moi dans cet entretien, c'est ça que j'y ai vu, c'est-à-dire elle dépeint des choses... d'une rare violence à des endroits de sa vie, d'une rare beauté dans les choix qu'elle a pu faire, dans ses déplacements, dans l'endroit de prendre ce temps, de regarder la montagne, par exemple, parce que ensuite, moi, j'ai eu la chance de faire, par exemple, dans les Cévennes, c'est-à-dire comment tout d'un coup, c'est aussi, la vie n'est pas une affaire de choix, mais en revanche, ce qui est affaire de choix, c'est de voir les signes ou d'être traversé par eux. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois, quand, par exemple, elle parle de comment elle est entrée en peinture, enfin, que tout d'un coup, elle regarde par la fenêtre de son université, qu'elle voit une lumière et que tout d'un coup, elle se met à peindre, je trouve que c'est sidérant, en plus de la part de quelqu'un qui est en train d'enseigner quelque chose et qui, en fait, va tout d'un coup se consacrer à quelque chose pour lequel elle verra juste une lumière et une révélation. Et ça, j'ai l'impression que dans tout ce qu'on fait dans la vie, et dans l'art, il faudrait tendre à ça, à ne cesser d'apprendre et à faire, mais d'être toujours à tout ouïe de ce qui peut nous advenir et nous surprendre et nous sauver, je pense aussi.
Elle parle beaucoup et toujours de la capacité d'observation et de la disponibilité à la lumière, à la beauté et à l'enfance. C'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de l'enfance, de la sienne et de l'enfance comme aussi un état du monde. En soi. C'est l'heure du dernier choix, Père de Baie, et vous avez choisi de lire un texte qui s'appelle Angels in America. C'est une pièce de théâtre de Tony Kushner. Je n'avais jamais entendu parler.
Ah ouais ?
Première fois.
Ah, c'est fou ?
Ouais.
Ah bah alors là, je suis choquée.
Il y en a plein. Hein. Je peux vous dire que je peux vous faire une liste de fois où c'est...
Ok. Juste très, très brièvement de la manière dont j'ai rencontré cette pièce. En fait, je la découvre au Festival d'Avignon, montée par Christophe Arlikowski. C'est une pièce gigantesque en deux parties, qui donc fait, quand on la monte en entier, 5h30, 6h, et qui dresse un tableau à la fois de l'Amérique, au moment où le sida commence à envahir le monde. Et en fait, c'est une grande fresque de l'Amérique et une grande fresque de la vie, de l'amour, et c'est juste une pièce folle et sidérante. Enfin, c'est-à-dire, délaisser toutes vos séries pour lire Angels in America.
Voilà.
Oui, je me disais pour l'affaire que ce serait peut-être bien que vous vous fassiez prior si vous avez envie.
Très bien. Moi, donc, je peux dire quelqu'un qui ne connaît pas la pièce, voilà. C'est vraiment super.
Je suis désolée, je vous mets dans
l'embarras. Non, c'est très
bien. Je lis les didascalies et ouais. Je fais Harper.
Et moi, je fais donc prior. Qui est prior?
Alors prior, c'est un jeune homme qui a découvert qu'il avait le sida et qui est amoureux de son compagnon qui s'appelle Louis et qui n'est pas vraiment là et va bientôt laisser.
Et qui est Harper par rapport à Pryor ?
Et Harper, en fait, n'est rien par rapport à Pryor.
D'accord.
Et en fait, les deux prennent des produits, elle pour sa dépression et lui parce qu'il est en trithérapie, il commence à être en trithérapie. Et en fait, cette scène, c'est qu'ils se rejoignent dans leur hallucination.
Dans la lue.
Voilà.
Ok, c'est parti.
Donc,
impro.
Scène 7. Une semaine plus tard, scène de rêve éveillé. Pryor est assis à une mirifique table de maquillage. Il rêve. Harper est en proie à une hallucination due à ses comprimés. Cela lui arrive de temps en temps. On ne sait pourquoi, Pryor en fait partie. À moins que ce ne soit elle qui participe au rêve de Pryor. C'est très troublant. On ne sait qui rêve, l'autre. Pryor, seul, en train de se maquiller, puis vérifiant le résultat dans le miroir au public.
Je suis prête pour le gros plan, monsieur 2000. On aimerait traverser la vie avec élégance et avec grâce. Et ne s'épanouir comme des fleurs qu'en d'exceptionnelles occasions. Telle une inestimable orchidée. Mais on arrive rarement à ses fins, n'est-ce pas? Non, on ne le peut pas. On se fait avoir. Ou pire, on meurt à 30 ans, dépossédé de tant d'années glorieuses. Putain de merde.
Harper paraît. Qui êtes-vous?
Et vous?
Que faites-vous dans mon hallucination?
Et si c'était vous qui étiez dans la mienne?
Mais vous êtes maquillée?
Vous aussi?
Mais vous êtes un homme?
Mes mains et mes pieds m'ont trahi.
Il doit y avoir une erreur, je ne vous reconnais pas. Vous n'êtes pas... Êtes-vous un de mes amis imaginaires?
Non. N'êtes-vous pas un peu trop vieille pour encore avoir besoin de vous inventer des amis?
J'ai des problèmes psychologiques, je prends des comprimés. Pourquoi êtes-vous maquillée?
J'étais en train de me passer le visage au fond de teint pour me donner meilleure mine. Je viens du rayon Chanel, chez Macy's, où j'ai piqué quelques nouveautés de la collection d'automne.
Vous les avez volées?
Je n'avais pas de liquide. C'est un cas d'urgence affective.
Joe va être très fâchée. Je lui avais promis plus de comprimés.
Des comprimés de quelle sorte?
Du Valium. Je prends du Valium. Plein de Valium.
Et vous décollez autant que vous voulez?
Oh, mais n'allez pas croire que je sois dépendante. Oh non, de même que je ne bois jamais. Je ne prends jamais de drogue.
Excepté le Valium. Par petite poignée.
C'est terrible, je sais. Théoriquement, les mormons n'ont pas le droit de prendre quoi que ce soit. Je suis mormone.
Je suis homosexuelle.
Ah, dans mon église, on ne croit pas à l'existence des homosexuels.
Dans mon église à moi, on ne croit pas à l'existence des mormons. Donc c'est une pièce de théâtre de 1987 écrite à San Francisco en 1991, ce qui n'est pas n'importe quelle période pour San Francisco. Traduction française qu'on vient de lire de Pierre Laville. Je vous laisse quasiment le mot de la fin, Père de B, déjà, de me valider cette impro.
Ouais, bah c'est incroyable,
voilà.
Déjà, bravo.
Merci, j'avais une rage dedans et le fait qu'on parle d'un seul coup de prendre des médicaments...
Voilà, je rassure les auditeurs, vous n'avez pas pris de Valium.
Et surtout, je n'ai plus mal.
Voilà.
Donc... C'est la vérité, c'est la vérité vraie.
Voilà, donc nous sommes toutes les deux dans notre hallucination.
Voilà.
Et ça, c'est... Voilà.
Mais vous êtes maquillée, très
voilà.
Je ne crois pas aux mormons.
Ouais, voilà. Non, mais ce que je dirais, c'est que je crois qu'il y a quelque chose, et j'ai l'impression que tous ces textes réunissent ça, mais déjà, il y a quelque chose de très généreux dans le texte de Kushner, et d'arriver en fait à tout d'un coup faire rencontrer des personnages qui soient fictifs ou réels. Il y a un personnage qui est réel, qui un avocat qui s'appelle Roy Cohn, et qui tout d'un coup de créer comme une sorte de portrait de résistance et de poésie, et de faire quand même un portrait queer des États-Unis. Et voilà, j'encourage vraiment tout le monde à lire Angels in America.
Merci infiniment, Père de B, d'avoir ouvert votre bibliothèque. Pour le Book Club de France Culture, on se quitte avec un extrait de votre dernier album, Buzz.
Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 qu'est-ce qui se passe?
Y'a un buzz
dans mes oreilles. Dans mes oreilles.
Y'a un buzz.
Je suis certaine, il n'était pas là à mon réveil.
Y'a un buzz
dans mes oreilles. Dans mes oreilles.
Y'a un buzz.
Mais comment a-t-il pu arriver une chose pareille?
Un buzz.
Yeah.
Pour retrouver la totalité des textes évoqués par PR2B, mais aussi les dates de concert de sa tournée, rendez-vous sur franceculture.fr à la page du Book Club. Au son, aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Meige. À la réalisation, Cassandre Puel. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, en particulier aujourd'hui à Léa Weissgruss. Pour retrouver toutes nos bibliothèques, rendez-vous aussi sur franceculture.fr ou l'application Radio France. Ah.